Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moments d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.
Bonjour. En 2020, la pandémie de coronavirus a aussi perturbé l'organisation des commémorations historiques. Fermées au public, elles sont retransmises à la télévision ou sur Internet. La date d'anniversaire de l'armistice de 1918 est traditionnellement marquée par une série de rassemblements rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre. Auprès des quelques 30 000 monuments aux morts édifiés dans les villes et villages français. Pourquoi le 11 novembre est-il un jour si sacré? Après 4 ans d'un conflit mondial sans précédent et de millions de morts, l'armistice avec l'Allemagne fut signé le 11 novembre dans la clairière de Retonde, en forêt de Compiègne. Cet accord sera scellé le 28 juin 1919 à Versailles par la signature d'un traité de paix. Depuis 1922, on commémore l'armistice en France. En 2009, pour la première fois depuis l'armistice, une chancelière allemande, Angela Merkel, participe avec le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, aux célébrations de Paris. C'est un symbole immense dans la réconciliation franco-allemande et un pas supplémentaire pour une Europe en paix. L'année 2020 fut marquée par le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et par l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix. Vous l'avez bien compris, la thématique de cette émission est consacrée à la Première Guerre mondiale et comme chaque émission, je vous convie à un invité pour nous en parler. Aujourd'hui, sous un air d'Ennio-Massione, nous accueillons Sylvain Margot, ancien étudiant en histoire à l'Université de Nantes. Lors de sa première année de Master 1, il s'est intéressé sur la vie à l'arrière du front, en Vendée. Et comme il est difficile de se réunir en ces temps difficiles, de Covid-19, j'ai convié Sylvain par visio.
Moment d'histoire.
Bonjour Sylvain Margot, tu es professeur à Mirande dans le Gers, tu as étudié en licence d'histoire à l'Université de Nantes, après une licence tu poursuis en master recherche, quelle a été ta thématique?
Alors bonjour, alors ma première année de recherche j'ai travaillé sur les élections législatives en Vendée de 1871 à 1889, c'est-à-dire le début de la Troisième République, et pour ma deuxième année de recherche j'ai prolongé mon étude de la vie politique vendéenne, durant la Première Guerre mondiale, donc de 1914 à 1914, pardon, à 1918.
Et du coup, quels professeurs ont suivi tes recherches?
Alors, en première année, j'ai été suivi d'un professeur en histoire contemporaine, Bertrand Joly, professeur à l'Université de Nantes et spécialiste de la vie politique sous la Troisième République. Et en deuxième année, j'ai été suivi par Stanislas Janson, professeur en histoire contemporaine, également à l'Université de Nantes, et spécialiste des relations internationales.
Et pourquoi tu t'es intéressé à la Vendée?
Alors, je me suis intéressé à la Vendée pour deux raisons. Tout d'abord, car à l'occasion des élections législatives de 2017, j'ai pu constater que pour la première fois de l'histoire, aucun député de la droite traditionnelle a été élu en Vendée. Cette particularité vendéenne m'a renvoyé à quelque chose que j'ai moi-même vécu étant originaire de Vendée, particularité d'être dans un département profondément conservateur. Je me suis intéressé à cette particularité vendéenne, cette particularité politique, et j'ai cherché à en comprendre les raisons en me plongeant dans l'histoire des débuts de la Troisième République.
Et la première pensée qui nous vient à l'esprit quand on doit évoquer l'histoire de la Vendée, c'est sa situation durant la Révolution française, où les Vendéens, en majorité royalistes et catholiques, s'opposent au reste du pays nouvellement républicain. Cette grande révolte contre-révolutionnaire donne lieu entre 1793 et 1796 à un conflit plus communément appelé la guerre de Vendée, et ce pluralisme influence la vie politique vendéenne tout au long du XIXe siècle. Qu'en est-il en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale ?
Alors, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'un de mes prédécesseurs et pionnier en matière de sociologie électorale, André Siegfried, a rédigé son tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République et a mis en lumière un découpage de la Vendée, un découpage en trois zones, c'est-à-dire qu'une grande majorité de la Vendée, notamment au nord et dans le Bocage, qui est restée très conservatrice au niveau politique et au niveau religieux, donc très croyante, qu'on pourrait dire très à droite aussi, en termes de conscience politique. Une Vendée également de la plaine, une Vendée du Sud, qui elle est davantage portée vers les idées de la République et les idées de gauche. Donc voilà, une Vendée qui est au nord plutôt à droite et une Vendée au sud plutôt à gauche. Et enfin, un troisième espace qui correspondrait au Marais Poitevin, plus restreint, qui lui reste toujours nostalgique de la réussite économique de la France sous le Second Empire et qui reste fidèle à cette vision idéale d'une France bonapartiste, une France qui a prospéré sous Napoléon III, sous le Second Empire.
Paradoxalement, alors que la Vendée semble s'unir pour faire face aux enjeux de la Première Guerre mondiale, la vie politique semble fonctionner au ralenti depuis le début du conflit, et pour cause, de nombreux représentants politiques sont partis au front.
Alors oui, tout à fait. Au début de la Première Guerre mondiale, très rapidement, dès août 1914, le 4 août 1914, Raymond Poincaré, le président de la République française, appelle à l'union sacrée. Cette union sacrée, c'est avant tout une trêve des luttes politiques, le temps du conflit, et une union de défense nationale. Cette union sacrée, elle se fait certes à l'échelle de l'État, donc à l'Assemblée nationale, mais qu'en est-il à l'échelle d'un département comme la Vendée, un département aussi divisé par l'histoire et aussi divisé entre cette gauche et cette droite? Eh bien, dès la deuxième quinzaine d'août 1914, les élus du Conseil général de Vendée acceptent cette union nationale, cette union sacrée, et décident d'entamer cette trêve politique. Toutefois, les activités politiques du début de la Première Guerre mondiale sont fortement perturbées par la mobilisation de ces élus. Alors, parmi ces élus, il y a certes beaucoup d'hommes âgés qui ne partent pas au front, qui sont donc exemptés de partir au front, mais vous avez aussi tout un tas de personnalités qui participent aux conseils municipaux. Au conseil général, vous avez des gens qui ont déjà de l'expérience politique, et donc ça va plutôt être des personnes âgées. Tandis que dans les villages, dans les municipalités, on retrouve des personnes en âge d'aller combattre qui ne peuvent plus donc être mobilisables, j'allais dire, dans les conseils municipaux.
Et le meilleur exemple, c'est celui des Sables d'Olonne ?
Alors, les Sables d'Olonne, c'est un exemple qui est vraiment très intéressant, puisqu'en à la fin de 1914, on peut constater que, en étudiant les rapports des conseils municipaux, toute la diversité de ces conseillers municipaux. Alors, on a l'exemple, par exemple, d'un conseiller municipal, Louis Mourat, qui, par les premiers mois de guerre, a été envoyé sur le front. Ses premiers mois de guerre sont les plus meurtriers de la guerre de 14, avec les derniers, et il est marqué à l'entrée d'une séance au conseil municipal que ce dernier est décédé et ne peut donc pas participer au conseil municipal. On observe d'ici que d'autres conseillers municipaux sont présents, mais de manière intermittente. Il est marqué qu'ils sont présents lors de leur permission seulement. Enfin, cette absence répétée de plusieurs membres du conseil municipal a contraint le conseil municipal à la fin de l'année 1914 des Sables d'Olonne à ajourner sa séance parce que le quorum, c'est-à-dire le nombre minimum de conseils municipaux pour adopter des circulaires, des arrêtés sur la municipalité, n'était pas atteint. Et donc, il a fallu reporter ces décisions politiques. Et enfin, pour terminer avec cet exemple sur les Sables d'Olonne, même si les Sables d'Olonne ont été paralysés durant cette période par le manque d'effectifs, Eh bien, les autres municipalités où nous trouvons des conseils municipaux plus fournis en termes de personnalité ont eux aussi été perturbés grandement, car jusqu'à la moitié de l'année 1915, le pays est sous état de siège. Et donc, les décisions politiques prises à l'échelle locale ne sont pas les plus importantes. Ce qui est plus important, c'est ce qui est pris à l'échelle nationale, qui est imposé dans les territoires. La priorité n'est pas, pour faire très clair, à s'occuper de savoir si on va rénover la petite rue marchande ou s'il faut remplacer les lampadaires.
Quand l'avis de mobilisation générale est décrété et placardé sur les places du village le 2 août 1914, on appelle les Français à rejoindre les rangs de l'armée. Et les Vendéens ne dérogent pas à la règle ?
Alors, les Vendéens ne dérogent pas à la règle. Les Vendéens, alors, on a souvent dit que les Français étaient partis la fleur au fusil. Alors, j'ai pu constater lors de mes recherches que cette expression fleur au fusil, le fait que les gens partaient sous les hurrahs de la foule, on pouvait l'observer, mais on pouvait l'observer seulement dans certains endroits bien précis, c'est-à-dire les gares. Dans les gares, on pouvait avoir une forme d'euphorie, car tout le monde se rejoignait, et c'est à ce moment-là que l'euphorie était palpable. Par contre, cette euphorie était inexistante sur les places de village, dans les foyers même. Les Vendéens sont partis à la guerre comme les autres, mais ne sont pas partis la fleur au fusil. Ils sont partis parce qu'ils devaient partir, parce qu'ils étaient patriotes. Les généraux de la Première Guerre mondiale avaient évalué à environ 13% le nombre de soldats, le nombre de mobilisés réfractaires, donc le nombre de personnes qui allaient refuser de partir à la guerre. Et les chiffres d'août 14 montrent que ce chiffre de 13% a été très fortement surévalué par les généraux de l'époque et que seulement 1,5% des mobilisés ont refusé de partir. Et en Vendée, la Vendée n'échappe pas à la règle. Les Vendéens sont partis se battre. Et ils sont partis se battre plus que d'autres départements en France, puisque la Vendée reste un département à l'époque très très agricole, et que ce sont les ouvriers agricoles qui sont le plus envoyés au front. Pour une seule et bonne raison, c'est parce qu'on va envoyer en priorité, on va surtout ne pas envoyer les hommes qui travaillent dans les usines, les hommes qui produisent des armes. Donc les ouvriers sont envoyés après les agriculteurs. Et vu que la Vendée dispose très peu d'industrie, eh bien les Vendéens sont plus envoyés que d'autres départements, que dans d'autres départements en France. Par exemple, pour illustrer ce phénomène, on a mesuré que en Vendée, eh bien c'était 22 000 morts à la fin de la guerre pour l'ensemble des Vendéens, sur une population de 438 000 Vendéens à l'époque, ce qui représente à environ 5% de la population vendéenne, tandis que la moyenne nationale tournait plus autour de 3,5%.
Cette guerre va prendre une ampleur mondiale et va durer 4 ans en impliquant des millions de personnes. Chacun d'entre nous a un ancêtre dont le conflit a bouleversé son existence. Il y a 2 ans, pour une chronique sur Prune, j'avais retracé le parcours de mon arrière-grand-père engagé dans cette guerre. Je vous propose de réécouter cette chronique.
Histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un inconnu, un poilu comme on les appelle. Cet homme se nomme Emmanuel Favreau. Il est né le 21 novembre 1886 à Danvix, un petit village vendéen à 2 heures de Nantes. Issu d'une famille de cultivateurs, il perpétue la tradition familiale en travaillant la terre à son tour. À 23 ans, il épouse Gilberte, de 2 ans sa cadette. Il s'installe dans le bourg du petit village, dans un petit foyer. De cette union naît Alfred en 1911. La famille mène alors une existence paisible. Probablement difficile à certains moments, vivre de l'agriculture au début du XXe siècle est un travail de dur labeur, mais ils sont heureux. Cet équilibre est bouleversé le 2 août 1914, quand cette famille prend connaissance de l'ordre de mobilisation générale placardé sur la place du village. Comme 4 millions d'hommes en France, Emmanuel doit partir à la guerre. Il est contraint de laisser Alfred et Gilberte alors que les travaux des moissons vont commencer. Elle va assumer seule les tâches de la ferme et l'éducation du petit. Cette responsabilité, elle l'assume brillamment. Cela n'empêche pas les inquiétudes d'Emmanuel qui, dans chacune de ses lettres, éprouve de la bienveillance envers son épouse. Une phrase a retenu mon attention. « Tu me dis que vous avez été au fourrage pour Marceline. Fais bien attention, ma chérie, à ne pas en faire trop. Avec beaucoup de recul, j'imagine le douloureux ressenti de cet homme, impuissant face à la distance qui les sépare. Leur seul lien, quelques lettres inondées de mots doux et rassurants, ainsi que des moments de vie du quotidien, puisque toutes les autres informations délicates sont censurées. Peu importe, c'est un signe de vie. Dès 1914, Emmanuel est enrôlé dans le 153e régiment d'infanterie et envoyé sur le front, non loin de la frontière belge, pour combattre face aux Allemands. Avec sa compagnie, il participe au premier échec français de la Première Guerre mondiale, lors de la bataille de Morhange en août, puis au premier succès, en fin d'année, à Ypres. En 1915, il contribue à la bataille d'Artois et à la seconde bataille de Champagne. En 1916, il est envoyé dans les horribles tranchées de Verdun, là où 700 000 hommes français-allemands perdirent la vie. Il en sortira indemne, ce qui lui vaudra une permission de 6 jours en mai. C'est très court quand on connaît les 2 jours aller-retour qui séparent le front de l'Est à la Vendée. Certes, mais c'est toujours ça de prix. Gilberte accompagne même Emmanuel prendre le train à Nantes, afin de ne perdre aucun instant. J'imagine la pénible séparation sur ce quai de gare, ainsi que le temps de baisers interminables, comme si c'était les derniers. Malheureusement, ce fut le cas. Le 6 juin 1916, Emmanuel écrit une lettre à Gilberte, qui est la dernière. Il y évoque le front. « Je suis toujours aux tranchées. Ça vaut mieux qu'à Verdun. C'est très calme pour le moment. Je ne sais si c'est que je m'ennuie beaucoup, mais je suis tout mal fichu, mais pas de danger que je sois évacué. » Puis il termine simplement par ces mots « Je suis à toi, pour toujours. » C'est comme si inconsciemment il se doutait de sa mort prochaine, cette mort qu'il côtoie quotidiennement. Quelques semaines plus tard débute un des plus sanglants affrontements de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme. Au bout de 2 jours de combat, Emmanuel disparaît dans une tranchée entre les obus. Il allait sur son 30e anniversaire, mais cette aberrante guerre en a décidé autrement. Comme Emmanuel, 10 millions de militaires sont morts en Europe et également autant de civils. J'imagine le soulagement des survivants qui, quand sonne l'armistice du 11 novembre 1918, sont passés entre les filets de la mort. Mais ce ne fut en réalité que le début de leur souffrance, comme 20 millions de blessés. Qu'elles soient physiques ou mentales, elles les marqueront à vie. J'imagine cet ancien poilu qui, quelques années après, la guerre tombe sur une vieille photo de classe et s'aperçoit qu'un tiers de ses anciens camarades sont tombés au front. Cette chronique est un hommage à toutes les victimes de la Première Guerre mondiale, de toute nationalité qu'elles soient. Mortes à cause de la bêtise des gouvernements européens de l'époque, mortes par des décisions criminelles des généraux qui envoyèrent des vagues humaines vers un échec certain, mortes pour un conflit dont l'origine est autre que des querelles politiques et économiques, si loin des préoccupations quotidiennes des populations. Comme le disait Anatole France dans les colonnes de l'Humanité en 1922, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels.
Moment d'histoire.
L'histoire d'Alfred et Gilberte révèle bien la situation des ménages durant la Première Guerre mondiale. Le départ des hommes au front laisse de nombreuses femmes seules face au travail des champs, tout en conservant la responsabilité du foyer et de l'éducation des enfants. Mobilisées à l'arrière, elles contribuent donc, selon leur rang et leurs moyens, à l'effort de guerre. C'est bien ça ?
Alors oui, tout à fait. La préoccupation principale des hommes quand ils partent au front, et d'autant plus des Vendéens qui sont des agriculteurs pour la plupart en 1914, eh bien c'est vont-elles réussir plutôt ces femmes à gérer la moisson qui arrive au mois d'août. Donc ce que j'ai pu constater dans les archives, c'est vraiment que la préoccupation principale c'est que les femmes soient en capacité de pouvoir faire les moissons. D'ailleurs, de nombreux hommes et de nombreux Vendéens qui partent disent à leurs femmes de se ménager, de faire attention à elles, car ils savent que le travail des champs est difficile. Les femmes participaient déjà au travail des champs, car c'est tout le monde qui participait au travail des champs et à la moisson, mais là, elles se retrouvent seules face à ce défi. Un deuxième problème qui se soulève à ce moment-là, c'est que les hommes sont ceux qui rapportent l'argent dans les foyers. Et donc, s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus autant d'argent qui va rentrer dans les foyers, et donc peut-être plus assez d'argent pour payer la nourriture. Et cette problématique de nourriture, elle va être rapidement récupérée par les personnalité politique locale, parce que c'est le principal enjeu du début de la guerre, et qui d'ailleurs en fait, va se poursuivre tout au long de la guerre, c'est l'approvisionnement en nourriture. L'exemple le plus marquant en Vendée, ça va être l'île de Noirmoutier, qui, de par sa situation d'île, va être la plus touchée par le manque de pain. Le pain reste un aliment essentiel dans l'alimentation des Français à l'époque, et il va à la fois manquer de farine, de blé, mais aussi de boulangers, car les boulangers vont être mobilisés. C'est-à-dire que cette question de nourriture ne passe pas que par une question d'approvisionnement, mais aussi par une question de main-d'œuvre sur place pour bah, tout simplement transformer eh bien, le blé, la farine, en pain.
Donc merci Sylvain. On poursuit l'interview après une pause musicale. C'était Vincile Vaudama. Nous sommes de retour dans Moments d'Histoire. L'émission aujourd'hui est consacrée à l'arrière du front durant la Première Guerre mondiale et tout particulièrement en Vendée. Et pour nous en parler, Sylvain Margot qui a étudié la question au sein de l'Université de Nantes. On disait avant la pause qu'au départ des hommes au front, on assiste à une restructuration de la société puisque les femmes les remplacent, même si leur entrée massive dans le monde du travail est souvent perçue comme temporaire. C'est sur cette réalité que s'appuient les mouvements féministes pour réclamer plus de droits pour les femmes. Est-ce que leur statut évolue à l'issue de la guerre ?
Alors moi, je me suis concentré pour savoir si les femmes du fait du départ des hommes, ont obtenu un statut différent au niveau politique. Car en effet, dans le nord de la France, on a pu observer que certains villages qui avaient vu les hommes partir au front avaient mis des femmes à leur tête qui avaient occupé l'équivalent du rôle de la mère, pour faire un parallèle. Alors, ces équivalents d'investissement politique à l'échelle locale, on peut pas les retrouver en Vendée. La Vendée, c'est un département qui reste très traditionnel et où les découpages entre les sexes restent très très marqués. Par contre, on peut voir que les femmes sont de plus en plus incluses pour les tout ce qui est aide aux personnes dans les œuvres, c'est-à-dire aider les réfugiés, les personnes en manque de revenus, la plupart du temps les femmes, et pour s'occuper aussi des questions scolaires. Alors, ces femmes qui participent d'une autre façon que de la façon traditionnelle, c'est-à-dire dans les assemblées politiques, ce sont les femmes, en fait, des grands personnages politiques. Donc, les femmes des notables locaux, qui, elles, vont participer massivement à des collectes pour les gens qui sont sur place, mais aussi pour envoyer des denrées alimentaires ou des vêtements pour les poilus. Et au-delà des femmes, quand je me suis intéressé aux femmes, ce qui m'est apparu, c'est que ce ne sont pas tellement la place des femmes qui va évoluer, mais la place plutôt des classes populaires. Car les élites politiques présentes en Vendée ont besoin de s'appuyer sur toute la force vive qui est restée à l'arrière. C'est-à-dire, on a besoin des agriculteurs, des ouvriers et des pêcheurs. Et donc, c'est notamment ces trois corps de métier qui vont voir leur statut évoluer. Car les principaux enjeux politiques, ça va être les réquisitions de denrées alimentaires, l'augmentation des productions des ouvriers, notamment dans l'industrie des sardines au Sable d'Olonne. Et enfin, du coup, le statut des pêcheurs et le fait que ces pêcheurs se voient intégrés dans des commissions politiques pour évaluer les stocks qui restent en Vendée de nourriture et ce qui peut être envoyé sur le front. Donc c'est pas tant sur les femmes qui restent des acteurs mineurs en fait de la participation de la vie politique que les classes populaires qui rentrent dans la vie politique. Et enfin, je pense qu'il faudrait ajouter un point sur la place des réfugiés qui sont nombreux à être venus en Vendée et qui eux sont totalement mis en dehors des décisions politiques. Ils deviennent plutôt des enjeux politiques que des acteurs. Et je pense qu'on pourrait classer en fait les femmes comme ces réfugiés, c'est-à-dire que ce sont des enjeux politiques plus que des acteurs. C'est-à-dire qu'il faut, ce sont vraiment eux qui vont occuper les questions débattues lors des conseils municipaux et généraux. Par contre, ce ne sont pas eux qui participent à ces conseils-là.
D'ailleurs, tu nous parlais des réfugiés. Il faut savoir qu'en août 1914, la panique s'empare de la population lors de l'invasion de l'armée allemande et fait fuir des milliers de personnes, principalement des Belges et Alsaciens. Et les Vendéens s'avèrent particulièrement accueillants. La population n'attend pas à l'action des politiques, une solidarité chrétienne se met rapidement en place.
Alors, oui, la solidarité chrétienne, c'est quelque chose qui est vraiment marquant sur le territoire de la Vendée. La Vendée va recevoir à la fois de nombreux réfugiés, mais aussi de nombreux blessés de guerre. On va installer des hôpitaux loin de la ligne de front. La Vendée se retrouve loin des lignes de front. Et donc, on installe, que ce soit les réfugiés ou les blessés, dans un territoire comme la Vendée, où on sait qu'il va y avoir cette charité chrétienne et qu'il va y avoir aussi des ressources, des denrées alimentaires à disposition et proches pour enfin accueillir toute cette population. Ces réfugiés trouvent en Vendée aussi la possibilité de se montrer utiles à l'effort de guerre en participant aux travaux des champs. Les réfugiés ne sont pas seulement ici pour ne sont pas seulement en Vendée pour échapper au combat, ils participent à l'effort de guerre en remplaçant les hommes qui sont partis sur le front.
Et d'ailleurs, tu as une anecdote avec le maire de Saint-Martin-sous-Mouzeuil.
Alors, Saint-Martin-sous-Mouzeuil, qui est devenu maintenant Mouzeuil-Saint-Martin. Alors, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est une anecdote qui nous permet de voir que cette union sacrée dont je vous ai parlé au départ, eh bien, à l'épreuve de la guerre, au fur et à mesure, elle ne tient pas toujours le coup face aux vieilles querelles politiques présentes en Vendée. Alors, il faut savoir que la principale querelle à l'époque est de savoir si les enfants sont scolarisés dans l'école publique ou dans l'école privée. Savoir, en gros, très bien, nous sommes une dizaine d'années après la séparation de l'Église et de l'État, et les querelles entre catholiques et laïcs sont encore très fortes. Alors, on évalue à l'époque à environ 55% des élèves qui sont inscrits dans le public, quand 45% de ceux-ci sont inscrits dans le privé. Et l'arrivée, eh bien, de familles de réfugiés pose la question de savoir où est-ce qu'on leur va inscrire les enfants à l'école. Et le maire de Saint-Martin-sous-Mouzeuil, qui est un républicain laïc, eh bien, il outrepasse en fait cette question de l'union sacrée en menaçant en fait les réfugiés de ne pas leur verser d'allocation si jamais ils inscrivent leurs enfants dans l'école privée. Et donc c'est par ce genre de petites actions que l'on voit que même au cœur de la guerre, même avec une union sacrée que l'on affiche comme étant inébranlable, eh bien, ces querelles religieuses sont tellement fortes qu'elles ressurgissent même en plein milieu de la guerre. Et d'ailleurs, je pense que l'on peut s'interroger sur cette union sacrée qui est parfois bien souvent de façade, car il faut montrer cette union sacrée et la presse locale le montre. Et de toute façon, on n'a pas le choix que de le montrer, puisque les journaux subissent énormément de censure et qu'il faut montrer que, eh bien, tout le monde est solidaire et ne pas montrer les dissensions. Donc, il est difficile, en fait, pour l'historien de percevoir ces dissensions. Et l'exemple des réfugiés permet de nous voir que ces questions politiques, eh bien, elles ne disparaissent pas, même avec l'Union sacrée pendant la guerre.
Et on ne pouvait pas évoquer la Première Guerre mondiale en Vendée sans parler de Clémenceau. Ce Vendéen, né en 1841, natif de Mouilleron-en-Praède, fait des études de médecine qu'il exerce pendant 20 ans, avant de se consacrer à la politique. Député républicain de la ville de Paris en 1870, c'est une figure de la Troisième République avec Jean Jaurès et Gambetta. Figure de proue de l'extrême gauche, il est réputé pour être un briseur de grève, on lui donne le surnom du Tigre, mais encore de briseur de ministère pour ses coups politiques à la fin du 19e. C'est aussi un ardent journaliste, défenseur de Dreyfus. Après un demi-siècle de carrière, Clémenceau nous livre son plus grand combat au cœur de la Première Guerre mondiale.
Alors effectivement, et l'image de Clémenceau, c'est peut-être dans mon travail de recherche ce qui m'a le plus surpris lorsque j'ai fait mon mémoire. Lorsque j'ai étudié le début de la Troisième République en première année de recherche, c'est-à-dire dans les années 1870-1880, eh bien, Clémenceau, c'était vraiment le chat noir des Vendéens parce que il était républicain, tandis que la plupart des personnalités politiques de Vendée étaient monarchistes. C'est vraiment le paria de la Vendée, Clémenceau. Tandis qu'à la sortie de la guerre, en 1918, lors de l'armistice, eh bien, le Conseil général, qui est massivement conservateur et qui, depuis des dizaines d'années, a vu en Clémenceau, un affreux personnage laïcard, de gauche et républicain, eh bien, il se félicite à la sortie de la guerre de voir que c'est un Vendéen, un enfant du pays, qui est à la tête de l'État et qui est le père de la victoire. C'est donc à ce moment-là que l'on voit vraiment la transformation de la vie politique vendéenne et l'inclusion en fait de la Vendée dans la République. C'était l'un des derniers département, un des derniers territoires qui refusait encore cette Troisième République et qui avait encore la nostalgie lointaine d'un roi, eh bien, l'image de Clémenceau a permis de réunir ces Vendéens, conservateurs et ces Vendéens progressistes. Et il est célébré partout en Vendée. On lui fait des statues. Lorsqu'il est menacé d'attentat, eh bien, le Conseil général lui envoie une lettre pour lui signifier son soutien, Conseil général conservateur. Et Clémenceau va revenir à de multiples reprises en Vendée, terre qu'il affectionne, notamment à Saint-Vincent-sur-Jard, où il possède une demeure, qui d'ailleurs est visitable actuellement, c'est devenu un musée que je vous encourage à aller visiter si vous êtes en vacances sur la côte vendéenne. Et vraiment, la place de Clémenceau dans l'histoire vendéenne va être primordiale. Et c'est pour ça que l'on retrouve partout en Vendée, que ce soit maintenant dans le Bocage comme dans le Sud, dans la Vendée plutôt traditionnelle, dans la Vendée plutôt progressiste, eh bien, une image qui réunit tout le monde, celle de Clémenceau.
En 1959, le maire du village de Saint-Vincent-sur-Jard et son garde champêtre se souvenaient bien de lui.
Ah, il venait surtout nous trouver quand on était à travailler dans la plaine. On faisait sa promenade sur les dunes, puis à un moment donné, il venait nous trouver dans la plaine. Puis là, il discutait sur la culture, la manière qu'on faisait pour semer, quoi. Il connaissait, mais enfin, il voulait s'apprendre sans doute mieux que moi.
Quand il arrivait au conseil municipal, ben, le maire était plutôt gêné.
Évidemment, mais la séance se déroulait.
Oui, oui, immédiatement, il prenait un siège et messieurs, faites comme si j'étais pas là.
C'est là que le tigre, lassé des luttes politiques et fatigué du commerce des hommes, vécut 7 ans dans une solitude orgueilleuse, partageant son temps entre la rédaction de ses mémoires et les longues rêveries devant la mer. Et certes, il avait de quoi rêver. Ses souvenirs couvraient plus de 50 ans, et c'était un demi-siècle de l'histoire de France.
Merci à Alina pour ces belles archives. Merci Sylvain et Margot d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, un peu de musique.
Could you be so blind?
C'était Goliath de Woodkid. Vous êtes de retour dans Moments d'Histoire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sylvain Margot. Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose un quiz pour tester vos connaissances en histoire. Et pour cela, nous accueillons deux nouveaux historiens en herbe. Étienne Pouli, bonjour. Comment bonjour. Allez-vous le mois dernier?
Bah, très bien et toi?
Je te remercie, très bien aussi. Maintenant, nous accueillons notre second invité, Maxime Noulet. Donc, je vais commencer par te remercier, puisque Maxime me propose des musiques qui sont régulièrement diffusées dans Moments d'Histoire. Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très bien, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de proposer toutes ces musiques.
Donc on a tous un point commun, c'est que nous étions dans la promo 2014 en licence d'histoire de l'Université de Nantes, et c'est sur les bancs de la fac que nous sommes rencontrés. Donc maintenant on va commencer un quiz assez classique, sans thématique particulière. Le principe est simple, 10 questions, de l'Antiquité à aujourd'hui, le plus rapide remporte le point, et à la fin, on fait le compte.
Moment d'histoire.
Première question. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui. Très bien.
Quand l'homme est-il apparu? Quand je dis l'homme, bien entendu, c'est notre espèce. Étienne Pouli?
Les dernières recherches, les dernières trouvailles ont repoussé à 300 000 ans avant Jésus-Christ. Avant, on était plutôt sur 200 000 pour Homo sapiens, maintenant on est à 300 000 au nord de l'Afrique.
Bonne réponse d'Étienne Pouli. Donc, l'apparition de notre espèce, Homo sapiens, est apparue il y a environ 300 000 ans. Et il faut tenir compte qu'avant, il y avait d'autres humanités, comme le Néandertal, il y a 500 000 ans. Deuxième question. Un point pour Étienne. L'histoire légendaire de Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome, s'inscrit dans la mythologie romaine. Au bord de quel fleuve leur mère les a-t-elle abandonnés avant qu'ils soient adoptés par une louve? Donc c'est Maxime qui a levé la main en premier.
Je pense que c'est le Tibre.
Bonne réponse de Maxime. Au cœur d'une lutte de succession entre leur mère Rhea Silva et son frère Amulius, les jumeaux issus de l'union entre la mortelle et le dieu de la guerre Mars sont jetés dans le Tibre. Ils réussissent à se sortir des eaux et Dieu et sont recueillis par une louve. À l'âge adulte, ils fondent la ville de Rome en -753. Troisième question. Quelles sont les dates de l'existence de l'Empire byzantin? Qu'il me semble que c'est Étienne Pouli qui a bipé en premier.
Alors, je crois que la partition de l'Empire romain en deux parties, c'est en 395. Et donc la chute de Constantinople, c'est en 1453.
On va accepter la réponse. En fait, c'est l'Empire byzantin ou l'Empire romain d'Orient désigne l'État apparu en 330 dans la partie orientale de l'Empire romain et perdure, oui, comme tu l'as dit, jusqu'en 1453 et la chute de Constantinople. Quatrième question. Quel roi est mort durant la 8e croisade? C'est au tour d'Étienne.
Saint-Louis, Louis IX.
Exactement. Louis dit Saint-Louis meurt de dysenterie lors de la 8e croisade pendant le siège de la ville de Tunis en 1270. Donc, 3 points pour Étienne, 1 point pour Maxime. Dernière question avant la mi-temps. Question 5. Combien de dynasties ont régné sur la France? Donc, je vous donne un indice, on considère que Clovis est le premier roi de France et Napoléon III comme le dernier empereur. Sylvain?
Bah écoute... Je dirais 4 moi.
Mauvaise réponse.
Ah oh.
Donc la question est, combien de dynasties ont régné sur la France? Étienne?
Alors donc, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens,
oui.
Les Valois, les Bourbons,
oui.
Et les Bonaparte, donc ça fait 6.
Non, mauvaise réponse. Maxime, à toi de tenter.
C'est assez difficile à dire. Peut-être... Il y a 4 et... je dirais 5 du coup.
La réponse était 7. Donc il y a les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Valois, les Bourbons, les Bonaparte et les Orléans.
Ah oui.
Donc là, c'est l'heure de la mi-temps. Maxime, tu nous proposes quoi comme musique?
Alors, pour cette émission, nous pouvons écouter ensemble l'album, enfin non, le titre qui est sur l'album de Gaël Faye, qui s'appelle Lundi méchant.
Allez, c'est parti.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on nous parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
J'vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es prêt à enterrer et chauffer, chauffer, va t'entendre les pulsations dans tes tympans en chanter, chanter, c'est qu'encore écouter, écouter lundi méchant.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant.
Vous êtes de retour dans Moment d'Histoire. Après une première partie d'émission consacrée à l'arrière du front durant la Première Guerre mondiale, je vous propose de réviser l'histoire d'une manière ludique avec un quiz. Nous sommes à mi-chemin du jeu et Étienne est devant avec 3 points, Maxime 1 point et Sylvain n'a pas ouvert le score. Sixième question. Quel roi de France a aussi été roi d'Écosse? Étienne Pouly encore.
François II.
Bonne réponse. François II, fils aîné d'Henri II et petit-fils de François Ier, épouse en 1558 Marie Stuart. Il devient le roi consort d'Écosse jusqu'à sa mort prématurée d'une maladie. Point à Étienne. Septième question. Quels rois ont épousé Anne de Bretagne? Maxime?
Alors, Anne de Bretagne a été l'épouse d'abord de Charles VIII, puis de Louis XII.
Bonne réponse. On va passer à la huitième question. Combien y a-t-il d'articles dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?
Pas évident, ça.
Étienne?
Au hasard, je vais dire 21.
Mauvaise réponse. Sylvain?
Je vais dire 18.
Mauvaise réponse. Max?
Moi, ça va être aussi du hasard. Je dirais moins, je dirais peut-être 12.
Non. La réponse était 17 articles.
Oh, j'étais pas loin. Je mérite un point, moi qui suis aux recherches de points.
Ouais. Adoptée en août 1789, elle comporte 17 articles qui constituent un préambule à la constitution voulue à l'époque. Bon, là, c'est une question de rapidité. Neuvième question. Quel savant est le père de la bombe atomique? Ah, vous avez bipé quasiment en même temps, mais c'est Étienne le premier.
Einstein.
Bonne réponse. Bon, allez, dernière question. Même si les jeux sont déjà faits. Quelle conférence donne naissance à l'Organisation des Nations Unies? Max?
Je suis pas sûr de moi, la conférence de San Francisco.
Bonne réponse.
Ouais.
Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la charte fut signée par 50 États membres le 24 octobre 1945 lors de la conférence de San Francisco. C'était la dernière question. Bravo à Étienne qui remporte le quiz haut la main.
Ah, merci.
Bravo.
Ah, bien joué.
Donc, merci de nous avoir rejoints avec Maxime pour clôturer cette émission. Sylvain, est-ce que tu as un dernier mot ?
Bah écoute, je te remercie Nicolas de m'avoir invité dans cette émission pour que je puisse présenter un petit peu plus en profondeur toutes les thématiques qui entourent la Vendée durant la Première Guerre mondiale. Et j'invite tous les auditeurs cet été, en espérant que les conditions sanitaires puissent le permettre, d'aller visiter au détour d'une journée plage la maison de Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard et de profiter de nos très belles côtes vendéennes.
Merci Sylvain pour ces bons conseils. C'est déjà la fin d'émission. Maintenant, on se retrouve le troisième jeudi du mois de février entre midi et 13h. Bon après-midi.
Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moments d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.